France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, à quoi servent les fictions scientifiques ? On peut facilement défendre l'idée que tout roman est une sorte d'expérience de pensée. Je veux dire de semi-fiction combinant la réalité et l'imagination. Bien sûr, il est encore plus facile de dire cela à propos de la littérature dite de science-fiction, puisque, comme son nom l'indique, celle-ci s'offre le luxe de s'émanciper des contraintes provenant du réel comme de celles provenant des savoirs scientifiques. De façon générale, les expériences dites de pensée se passent d'instruments et de dispositifs techniques. C'est le cerveau seul qui fait office de laboratoire. Le cerveau qui vient puiser dans les données de la réalité ou bien dans des principes supposés vrais, matière à expérience fictive sur laquelle la logique et l'argumentation peuvent ensuite s'exercer. C'est pourquoi toute expérience de pensée serait plus justement nommée expérience par la pensée, ainsi que le propose Françoise Balibar dans l'un de ses ouvrages. Chaque fois, tout commence non par « il était une fois » mais par une hypothèse. Supposons que, ou imaginons que, une situation, possiblement réelle ou non, se trouve ainsi campée. Un raisonnement s'ensuit qui, s'il est bien mené, permet d'apprécier la pertinence, la plausibilité ou l'absurdité de cette hypothèse. Ou bien, autre possibilité, c'est une histoire originale qu'on construit à partir d'elle. En philosophie, certaines expériences de pensée ont permis d'illustrer des problèmes conceptuels grâce à des situations inventées, donnant corps à des questions fondamentales. Elles agissent alors comme des adjuvants intellectuels. Par exemple, le bateau de Thésée, navire perpétuellement réparé, permit aux sophistes d'Athènes de se demander si, à mesure que ces pièces sont remplacées, il s'agit encore du même bateau. La contradiction apparente entre le concept d'identité et celui de changement se trouva ainsi sérieusement questionnée. Pensons aussi à l'allégorie de la caverne, qui pose chez Platon les conditions de notre accès à la vérité, ou encore à l'anneau de Gygès, qui permet à son détenteur de devenir invisible, à l'âne de Buridan, placé devant un dilemme poussé jusqu'à l'absurde, au malin génie de Descartes qui, malgré sa puissance, ne saurait me faire douter de ma propre existence, à l'hôtel de Hilbert doté d'un nombre de chambres infinies qui peut toujours accueillir de nouveaux clients même si toutes les chambres sont occupées. Bref, cet hôtel n'est pas complet même lorsqu'il est complet, constat terrible qui interpelle la cohérence de notre logique. En physique, les expériences de pensée peuvent jouer un rôle similaire à celui que je viens de rappeler. Démon de Laplace, démon de Maxwell, jumeau de Langevin, ami de Wigner, chat de Schrödinger. Il s'agit chaque fois d'illustrer des problèmes ou des difficultés d'interprétation des théories physiques, ou encore de théâtraliser les conséquences qu'auraient ces théories si telle ou telle expérience pouvait être concrètement réalisée. Question pour nous à la conversation scientifique. La notion d'expérience de pensée ne peut-elle pas être élargie ? Ne peut-on pas aussi s'amuser à penser d'autres mondes dans le but de penser notre monde autrement ? Par exemple, à bâtir des fictions scientifiques consistant à faire jouer un rôle important aux nouvelles technologies et ainsi à mettre en scène ce que notre monde pourrait devenir, ainsi que nous-mêmes, qui sommes de plein pied dedans, par la même occasion. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Bontemps. Bonjour.
Bonjour Étienne.
Vous êtes philosophe des techniques.
Oui.
Directeur de recherche au CEA, professeur à l'université Paris-Saclay, et vous êtes l'auteur d'un livre qui répond presque complètement aux questions que j'ai posées. Il s'intitule « Fiction scientifique » et il a pour sous-titre « Et si Borges avait connu l'IA ?» Livre qui vient de sortir aux éditions des Belles Lettres, qui est votre éditeur habituel, je crois.
Oui.
Voilà. J'ai une première question, Vincent Bontemps. Vous êtes philosophe, je l'ai dit, mais vous êtes jeune. Donc j'imagine que vous n'avez pas encore lu ce livre d'Arthur Schopenhauer qui s'appelle « L'art de bien vieillir ». Parce que vous ne vous sentez pas encore concerné, j'imagine.
Je crois que j'ai parcouru, dans ma jeunesse, cet opuscule de Schopenhauer.
C'est paradoxal.
Ouf. peut s'intéresser à des choses qui sont, on l'espère, inéluctables, parce que si on ne devient jamais vieux, c'est mauvais signe.
Il y a des phrases, c'est un livre qui contient beaucoup d'aphorismes, notamment celui-ci, et je voulais avoir votre commentaire à ce propos. Il écrit ceci, « Derrière le monde se trouve quelque chose d'autre, quelque chose que nous pouvons atteindre, si nous le méritons, en nous débarrassant du monde. » Alors, ma lecture de cette phrase, qui n'a rien à voir avec le vieillissement, c'est le fait que Galilée a compris que le monde dans lequel on vit, la Terre, avec son atmosphère, on n'est pas dans le vide, on voit le ciel avec nos yeux, ce monde est un produit masquant de l'univers. C'est-à-dire, il nous empêche de voir les lois physiques telles qu'elles sont, puisque dans notre monde, elles sont enrobées par des phénomènes physiques qui les masquent. Par exemple, dans notre monde, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Mais si on était dans le vide, on les verrait tomber à la même vitesse. Il a pu le découvrir en s'extrayant par la pensée du monde. Ça, c'est la lecture que j'en fais. C'est une sorte de résumé de la démarche qu'a suivi la physique dite moderne. Mais vous, cette phrase, vous la comprenez comment ?
Ben, j'extrapolerai. Je dirais non seulement que le monde apparent des phénomènes et les perceptions immédiates sont un obstacle épistémologique, comme aurait dit Gaston Bachelard, mais qu'en plus de ça, la construction du monde social, économique, politique est elle aussi quelque chose qui impose un prisme à nos perceptions et à nos conceptions et même à nos émotions parfois. Et qu'il y a donc une profondeur aussi émancipatrice dans la façon dont vous interprétez cette phrase de Schopenhauer. Parce que, en définitive, dans la science-fiction, il y a bien deux termes, la science et la fiction. Et il y a une pensée qui peut s'animer à travers le trait d'union. Trait d'union qui d'ailleurs existe en français, mais pas dans la langue originale, pas en anglais. Et dans ce trait d'union, il y a un double mouvement qui est le « et si » de l'imagination créatrice qui va vers la fiction, et puis le « oui mais » de la rationalité critique. Or, les deux, en quelque sorte, subvertissent ce monde dont Schopenhauer veut se débarrasser et qui fait obstacle. Parce que aussi bien apprendre des choses sur les lois de l'univers, et donc comprendre l'arbitraire, des constructions du monde dans lequel on évolue, que explorer d'autres possibilités par la fiction, aller dans d'autres mondes pour penser notre monde autrement. Ces deux mouvements, en réalité, sont une façon de s'extraire du monde.
Vous êtes un spécialiste de Gaston Bachelard. Il y a cette phrase qui fait directement écho à ce que vous venez de dire, Vincent Montand. Bachelard écrit dans « L'air et les songes » Imaginer, c'est hausser le réel d'un ton. Il faut que l'imagination ait trop pour que la pensée ait assez.
Ouais. Une des phrases qui peut servir de maxime aux fictions scientifiques, c'est aussi ce qu'on appelle la seconde loi de Clark, qui a été écrite par Arthur C. Clarke et qui n'était pas pensée comme une loi, mais quand la traduction a été faite en français, la personne qui a traduite a introduit en parlant de deux lois, et du coup, Clarke en a rajouté une troisième. Mais parce qu'à cause de Newton, évidemment. Et donc la deuxième, elle dit, pour penser le possible, il faut, pour connaître les limites du possible, il faut penser un peu au-delà dans l'impossible. Et évidemment, les termes les plus importants de cette phrase, c'est un peu au-delà. C'est-à-dire, il faut être dans une certaine maîtrise par rapport à l'écart au réel pour justement ne pas être prisonnier de possibilités, de bornes qui ont été fixées de façon en réalité plus sociale que rationnelle. Et néanmoins, ne pas aller trop au-delà, dans ce cas-là, on aurait perdu toute relation, tout moyen de faire retour de façon profitable. On aurait brisé cette dialectique. Et je crois que c'est un des secrets, c'est d'aller dans ces zones indécidables, où on ne peut pas prouver que c'est possible ou impossible, où on ne peut pas prouver que c'est légal, illégal.
Mais est-ce que vous serez d'accord, Vincent Montand, pour dire que Galilée et beaucoup d'autres sont des gens qui ont trouvé un moyen d'aller se faire voir ailleurs par l'esprit, c'est-à-dire en posant des questions du type « qu'est-ce qui se passerait si on était dans le vide ? Qu'est-ce qui se passerait si on était à cheval sur un rayon lumineux ? Qu'est-ce qui se passerait si on était au bord d'un trou noir ?»
je crois qu'ils ont... Il y a quelque chose de très paradoxal dans les expériences de pensée scientifiques. Dans toutes les expériences de pensée, mais disons que les expériences de pensée scientifiques en font un usage plus maîtrisé, je pense, qu'ailleurs. C'est le fait de vider le monde pour le comprendre. Et donc, en effet, de supprimer énormément de choses pour mettre en scène quelque chose. Et l'aspect fiction est plutôt là pour impliquer l'imagination et pour qu'on se sente partie prenante, que ça soit pas juste un raisonnement, que ça soit pas juste une hypothèse. Et donc, dans les célèbres expériences de la chute dans le vide, en effet, il y a quelque chose chez Galilée qui permet de faire éclater la fausseté et la contradiction dissimulée, en fait, de ce qu'on croyait dans le monde. C'est-à-dire, on croyait, nos perceptions habituelles sont fort proches de la rationalisation aristotélicienne. Et donc, du fait que quelque chose de plus lourd tombe plus vite que quelque chose de moins lourd. Voilà, c'est ce qu'on peut penser avec le sens commun et ce que nos sens peuvent nous révéler en première approximation. Donc, aller penser contre son cerveau, pour utiliser une autre citation de Bachelard, les expériences de pensée peuvent nous servir à cela. Je mettrai en garde contre le fait que je pense qu'il y a quand même dans l'armature mathématique et le mode de raisonnement physico-mathématique qu'un Galilée met en place, quelque chose qui permet justement cette commensuration entre l'expérience de pensée et le retour vers le réel, alors que je mettrai pas ça, disons, au crédit de toutes les expériences de pensée. Il y a des expériences de pensée dont on peut dire, avec Michael Hofstadter, que ce sont des machines persuasives. En fait, on vous plonge de force dans une situation et vous êtes bien obligé de faire avec et de vous et en fait d'avaler un certain nombre d'a priori métaphysiques en même temps que l'expérience de pensée qui vous est proposée. C'est pour ça qu'il y a des usages, admettons par exemple que l'usage de Platon auquel vous avez fait référence avec la caverne. Ce qui est important, c'est qu'en fait il y a eu une démonstration géométrique au livre précédent qui était l'analogie de la ligne, et ensuite une illustration de façon à pouvoir faire l'aller-retour et de pouvoir regarder entre l'image et le concept, de pouvoir travailler par la pensée. Et ça, c'est un usage plus, comment dire, plus maîtrisé.
Mais Vincent Bondon, est-ce que vous êtes capable vous-même de faire une expérience de pensée consistant à imaginer ce qu'ont pu ressentir les contemporains de Galilée lorsqu'il a énoncé son fameux principe d'inertie qui dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force va en ligne droite à vitesse constante? Alors, c'est tellement contradictoire avec l'expérience que nous avons du mouvement dans notre monde que ça a dû apparaître comme une sorte de folie, puisque dans notre monde, pour qu'un corps soit mu, soit en mouvement, il faut exercer une force sur lui. Il faut qu'il soit mu par une force, comme disait Aristote.
Oui, j'essaye de faire quelque chose d'encore un peu plus retors, qui est d'imaginer si finalement Galilée n'avait pas eu gain de cause. C'est-à-dire, j'essaye de...
Ça faillit être le cas.
Oui, mais enfin, heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais d'imaginer des devenirs soit uchroniques, donc des divergences, dans le livre, c'est pas à partir de Galilée, mais ça aurait pu, hein, c'est-à-dire de se demander, que serait devenue une civilisation qui aurait tout de même progressé, on va dire techniquement, mais en expliquant ses réussites d'une façon imagée, avec une rationalité aristotélicienne. D'abord, où ça aurait bloqué, mais jusqu'où on peut pousser ce jeu de l'imagination? Ça me paraît intéressant, parce que je détecte dans la situation présente, parfois des dangers qui nous guettent d'une sorte de régression où ce qui circule comme information dans notre société ne sera plus référé à la connaissance, mais seulement justement à des phénomènes de croyance.
Ou de bon sens.
Oui, ou du bon sens, c'est ce qui est encore pire, peut-être. Et donc il y a quelque chose de comment dire, d'alarmant dans certaines des fictions que j'ai proposées, et qui est à dessein de montrer tout de même qu'il y aura un prix, un coût cognitif à payer si par paresse, par lâcheté ou parce que nous sommes séduits, tout simplement, nous versons dans une civilisation qui ne valorise plus l'effort de la connaissance.
Vincent Bondon, avant qu'on parle de vos fictions,
oui.
Moi je veux vous cuisiner en tant que philosophe des techniques, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des philosophes des techniques, ou de la technique. Est-ce qu'on dit ça au pluriel ou au singulier?
Les deux, et ça a une acception différente.
Alors,
Bah, le philosophe des techniques est quelqu'un qui peut être convoqué pour éclairer tel ou tel pan de la civilisation technique sous un angle éthique, par exemple, ou voilà. Tandis que le philosophe de la technique fait une supposition forte, mais intéressante, sur l'unité fondamentale de ce rapport au monde que nous aurions à travers les gestes techniques, mais aussi très souvent la matière organisée, c'est-à-dire les machines, voilà, et qui en fait une dimension, et il en fait une dimension essentielle. Donc il y a, il y a une légère nuance entre les deux attitudes, mais les deux sont intéressantes.
Bon, qu'on prenne le singulier ou pluriel, oui. On est d'accord que le philosophe de la technique ou des techniques s'intéresse, j'imagine, à ce que font les ingénieurs. Et partant de la citation de Schopenhauer que j'ai dite tout à l'heure, derrière le monde se trouve quelque chose d'autre, quelque chose que nous pouvons atteindre si nous le méritons en nous débarrassant du monde. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'ingénieur, finalement, c'est un médiateur entre le monde et l'univers? C'est-à-dire qu'il fabrique des objets techniques, des machines, qui sont naturelles parce qu'elles obéissent aux lois physiques, et elles sont artificielles parce qu'elles n'existent pas spontanément dans la nature.
De toute évidence, avec l'activité technique, nous faisons apparaître réellement du nouveau dans la nature. Et ça peut avoir un caractère vraiment fondamental, puisque ça peut aller jusqu'à ce que Bachar appelle la phénoménotechnique, c'est-à-dire les instruments scientifiques qui nous permettent d'actualiser des potentialités de la nature qui, à notre connaissance, n'existent pas autour de nous et n'ont peut-être jamais existé. Il y a des éléments atomiques.
Il faut aller les chercher.
Il faut aller vraiment les chercher avec des accélérateurs et des collisions pour les générer pendant un temps assez court et y avoir accès. Donc, il y a cet aspect fondamental de médiation à travers les échelles et avec, on va dire, la nature profonde. De ce côté-là, il y a une dilatation, finalement, de la zone de contact entre l'humanité et la nature. Tandis que le monde social dont nous parlions avant, celui qui fait obstacle, l'ingénieur n'est que partiellement l'organisateur de cette médiation. Parce que les objets techniques qui circulent dans la société ne sont pas similaires justement aux instruments qu'on trouve dans le laboratoire qui sont purement faits pour faire ce qu'ils font. Ce sont des objets qui ont été socialisés, qui très souvent donc ont une interface, qui se sont adaptés, mais en s'adaptant en réalité, ils deviennent aussi opaques, on ne voit pas leur fonctionnement, on n'a pas à le comprendre pour les utiliser. Et donc, de ce fait, ils peuvent véhiculer une normativité, invisible ou visible. Ils peuvent être vecteurs d'aliénation sociale, dans la mesure où la technique pure est peut-être froide et étrangère, mais elle est honnête. Tandis que les objets socialisés sont peut-être amicaux, ils font preuve de convivialité, on va dire, mais ils peuvent être trompeurs.
Alors ça m'amène à vous interroger, Vincent Montand, sur l'un de vos maîtres, je crois, on peut le dire comme ça, qui est Gilbert Simondon.
J'ai pas eu la chance de le connaître, mais
non,
oui,
mais c'est un maître à penser. Vous le citez souvent, c'est votre maître à penser, disons. Alors, qui était-il? Que représente-t-il pour vous? Pourquoi vous intéresse-t-il autant? Vous citez l'une de ses phrases en exergue de votre livre, je la rappelle. La fiction scientifique, écrit-il, est une des voies par lesquelles l'image retrouve son pouvoir d'avenir, c'est-à-dire sa fonction prophétique. Elle est l'image du monde réel, saisie dans sa tendance et poussée plus loin, réellement anticipée, saisie par avance selon l'aspect cognitif et émotif, et non pas seulement supputée. Ça demande une petite explication quand même.
Je pense qu'on peut la répéter une deuxième fois.
Alors,
c'est comme tout ce que fait Simondon, terriblement dense.
Je répète, la fiction scientifique est une des voies par lesquelles l'image retrouve son pouvoir d'avenir, c'est-à-dire sa fonction prophétique. Elle est l'image du monde réel, saisie dans sa tendance et poussée plus loin, réellement anticipée, saisie par avance selon l'aspect cognitif et émotif, et non pas seulement supputée. L'idée, c'est que la fiction scientifique permet de saisir l'avenir du monde. Si je résume.
Une ligne, une tendance à l'intérieur de l'avenir du monde, qui n'est pas unifié, qui étant dans l'avenir est justement encore fait de possibles bifurcations et d'éléments qui ne font pas encore système, mais oui, à condition de hausser l'exigence au niveau de ce qu'est une fiction scientifique, il y a bien ici formulé l'ambition de saisir, non pas seulement par une pensée abstraite, c'est l'aspect cognitif, mais aussi de faire éprouver, de faire vivre, et en quelque sorte inventer la façon d'habiter ce monde-là qui se profile. Et du coup, la notion prophétique, bon, j'appartiens à une tradition de pensée, et en fait Simondon aussi, où on ne valorise pas trop l'attitude prophétique un peu facile des philosophes qui prétendent décréter ce qui va arriver. Mais là, ça signifie plus techniquement qu'il y aura des ruptures. En fait, un prophète, c'est quelqu'un qui dit que le monde, précisément le monde social, qui a l'air d'être inamovible, qui a l'air d'être impossible à changer, quelque chose dont nous avons la certitude que ça va durer, ne va pas durer. Alors très souvent, c'est sur un ton un peu apocalyptique, hein, beaucoup des prophètes prophétisaient la chute de Babylone ou quelque chose comme ça. Quelquefois, c'est eschatologique, quelque chose de bien va arriver, qui est empêché par le monde. Mais de toute évidence, il y a une certitude qui est à corriger parce qu'elle est mal fondée. Et donc, je crois que c'est ça qui est dit, en tout cas, c'est dans cette optique-là que je me suis emparé de cette citation en me disant « La philosophie ne doit pas servir uniquement à comprendre le monde, à l'interpréter. Elle doit fournir, dans une certaine mesure, des outils. Et ces outils peuvent être des images, des façons de s'organiser. Et la fiction peut être servir à ça. » Et c'est pour ça que les fictions qui sont dans ce livre ne sont pas seulement... Il n'y a rien de mal à ça, hein. Ce ne sont pas seulement des œuvres d'art, mais sont aussi ce que j'appelle des prototypes de science-fiction, c'est-à-dire des objets qui sont destinés à faire réfléchir, à éventuellement être mis en discussion, à donner lieu presque à un jeu, en fait, hein, et un jeu collectif avec chacune des propositions qui sont illustrées par ces histoires.
Mais rappelez-nous, Vincent Bonton, qui était Gilbert Simondon ?
Ah oui, bah, de mon point de vue, le plus grand philosophe du XXe siècle. Mais pour le dire simplement, c'est un philosophe qui a laissé son nom principalement pour sa philosophie des techniques, mais qui a aussi une œuvre encyclopédique de philosophie, on peut dire, de la nature, fondée sur les notions d'individuation, individuation physique, biologique.
Un grand livre.
Exactement, l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, et psychosocial, donc trois grands régimes d'individuation, auxquels il a adjoint une enquête sur ce qui n'est pas l'individuation, mais qui est la fabrication, la concrétisation, l'évolution des objets techniques, et le mode d'existence des objets techniques. C'est comme ça que ça s'appelle, du mode d'existence des objets techniques. Et dans cette œuvre encyclopédique, eh bien, ce qui est satisfaisant, c'est qu'on y trouve une grande profondeur et densité, on peut y retourner pour chercher des indications, quand on se pose des questions, et qu'elle a cette particularité d'être une œuvre ouverte à l'intégration des résultats scientifiques de notre temps. C'est ça qui a séduit, pas seulement moi, beaucoup d'autres gens dans l'œuvre de Simondon.
Alors Gilbert Simondon proclamait la nécessité, disait-il, de faire ami avec les machines, oui, avec les objets techniques. Alors, ça voulait dire les comprendre et dépasser le sentiment d'étrangeté qu'elles nous imposent. Mmh. Est-ce que c'est possible de faire ami avec les techniques, avec les objets techniques ? Pour ce qui me concerne, je suis assez pote avec ma cafetière, parce que je sais dire comment elle marche et comment, par quelle loi physique, elle arrive à me fabriquer, si j'ose dire, du café chaud. Mais avec mon téléphone, je suis plus embêté, parce que je ne sais pas dire exactement comment il fonctionne.
Ben en gros, vous avez donné la clé. Hein. L'idée force, et qui est très éthique et même politique de Simondon dans sa philosophie des techniques, c'est que si la technique est un relais d'aliénation, ce n'est pas la faute de la technique, mais de la méconnaissance de la technique. Autrement dit, c'est parce que nous avons un rapport utilitaire et que nous n'utilisons les objets techniques, ne les évaluons que par leur fonction, le service qu'ils nous rendent, et que c'est superficiel, que nous sommes soumis à un rapport presque d'esclavage. Pour respecter un objet technique, pour s'en faire l'ami, comme vous l'avez dit, il faut comprendre son fonctionnement. Et ainsi être capable aussi de l'entretenir, de le réparer, peut-être de l'améliorer. C'est un rapport riche, un rapport technique cette fois-ci que nous aurions avec l'objet. Il faudrait l'avoir réellement adopté dans tout son cycle de vie, en réalité.
Mais plus un objet technique est complexe, et plus il est facile de l'utiliser sans savoir comment il marche.
Oui, et en plus, vous pouvez rajouter à ça le fait aussi que la technicité des objets s'est peu à peu enfouie de l'échelle intermédiaire de leur aspect individuel à notre échelle, pour se retrouver dans des sous-ensembles miniaturisés, micro-organisés, hein, nano-organisés parfois, ou dans des réseaux qui dépassent de loin l'échelle de l'individualité. Donc l'évolution de la technologie n'a pas rendu la tâche plus facile. Mais on peut, et on doit, imaginer des dispositifs de type... À son époque, c'était inspiré par la cybernétique.
Qui va devenir l'IA.
Eh bien, oui, on devrait être en mesure d'imaginer que l'IA, technologie qui devrait servir à piloter au service de l'intérêt général des systèmes complexes, sont en mesure de nous aider justement à piloter notre devenir technologique et son rapport à l'environnement. Et ce qui est un peu dommage, c'est que les tendances qu'on voit à l'œuvre dans le monde contemporain sont plutôt des tendances intempérantes, guidées par une spéculation qui n'a rien de philosophique, mais tout à fait financière, et qui consiste à accélérer, intensifier les processus de consommation énergétique et matérielle, donc en réalité a donné une apparence autodestructive au cycle de développement que nous vivons. Et ça, ça n'est pas du tout la destination de la technologie, ni de l'IA en particulier. C'est un certain régime qu'on pourrait définir comme étant une civilisation du rendement. Et c'est ça qui est dénoncé au premier chef par Simondon. Cette civilisation du rendement qui réduit en esclavage les machines en fait le moyen de créer d'autres esclaves et par conséquent aliène une bonne partie de notre culture.
Ce que dit Jean-Michel Beignet, qu'on a reçu il y a quelques semaines à ce même micro, c'est que le fait que nous soyons en interaction de plus en plus nombreuses avec des objets techniques nous transforme pour partie nous-mêmes en objets.
C'est possible. Même si ça ne nous transforme pas en objet, ça informe à un tel point notre subjectivité que ça donne ce sentiment de ne plus être libre de choisir son identité. Et donc c'est ça le sentiment d'aliénation qu'il faut ensuite traduire dans des formes correctes pour trouver parfois des moyens collectifs ou individuels de s'extraire de cette situation.
Vincent Monton, quand j'ai su que j'allais vous recevoir, je me suis mis à travailler parce que je sais que vous avez réponse à presque tout. Et avant qu'on parle de votre livre, il faut quand même qu'on y vienne. J'ai une dernière question à vous poser, toujours à propos de Simondon. Il écrit dans un texte qui s'intitule « Sur la technique », cette phrase, alors comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, c'est toujours assez dense, les phrases de Simondon. C'est pour ça que je vais vous demander de m'éclairer sur le sens de celle-ci. Il écrit « Il faut sauver l'objet technique ». Ouais. Un peu comme il est question de la salvation humaine dans les écritures.
Ouais.
Rien que ça. Je crois qu'il y a de l'humain dans l'objet technique et que cet humain aliéné peut être sauvé à la condition que l'homme soit bienveillant à son égard. Il faut en particulier ne jamais le condamner.
Oui. C'est sûr qu'il y a une tendance à faire de la technique le bouc émissaire de ces évolutions intempérantes dont je faisais état. Dans toutes ces œuvres, hein, à la première page du mode d'existence des objets techniques, il est déjà affirmé que la philosophie a pour mission, dans l'époque contemporaine, d'accomplir la même tâche que celle des humanistes vis-à-vis de l'abolition de l'esclavage. Simplement, cette fois-ci, c'est en direction de la réalité technique. Et pour cela, il faut réaliser que c'est un problème très profond dont il a été question, cette réduction en esclavage des objets techniques. Ce n'est pas que le problème du capitalisme. Si vous faites la révolution, c'est bien sympa, mais Bébert dans son usine, si il est soumis aux mêmes cadences dans le même idéologie du rendement stakhanoviste, par exemple, ça lui fait une belle jambe de travailler pour le comité central plutôt que pour le bénéfice du propriétaire. Donc, il y a quelque chose qui est une révolution dans l'organisation de nos relations avec la technique.
Mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « il y a de l'humain dans l'objet technique »
C'est l'évidence. Il y a de l'humain parce qu'il y a de l'intelligence et du travail. Il y a des gestes dans chacune des... Alors, maintenant, il y a une médiation qui fait que nous faisons les machines qui font les objets. D'accord.
Voilà, mais... quand un robot fabrique des machines, est-ce qu'on peut dire que le résultat est tel qu'il y a de l'humain dans l'objet technique ainsi fabriqué?
Oui, d'autant plus qu'on en revient à la question avec laquelle on avait commencé, c'est-à-dire, il faut mesurer ce que vous retrouverez dans l'objet qui vient de contraintes et de ressources purement techniques, et ce qui a été ajoutée, surajoutée de valeurs sociales. Il y a des objets techniques que l'on fait volontairement non compatibles les uns avec les autres pour pouvoir vendre telle ou telle chose avec telle autre et obliger à racheter telle autre. Vous voyez, il y a bien de l'humain et pas toujours dans le bon sens. Hein. L'humain n'est pas que bon dans cette phrase. Mais comme Terence le disait, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. C'était la maxime de Simondon. Et donc, il faut tout comprendre pour pouvoir éventuellement corriger une partie.
Venons-en, Vincent Montand, à votre livre qui s'intitule « Fiction scientifique » avec comme sous-titre « Et si Borges avait connu l'IA ?» Point d'interrogation. Ce qui nous amène à ce livre très fameux de Borges, publié en 1944, intitulé « Fiction », qui est le résultat d'une grave crise personnelle qu'a connue Borges en 1938, la veille du jour de Noël. Il a un grave accident, il monte un escalier en courant, il s'écorche en profondeur le cuir chevelu, la blessure s'infecte, on l'opère d'une septicémie, il y a une très longue convalescence, durant laquelle il va écrire la première de ses fictions. Et il écrit un texte qui est à la lisière du réel et du fantastique, avec l'idée que la littérature peut devenir une sorte d'exercice du possible. J'imagine que vous avez lu ces fictions.
Oh oui.
Plusieurs fois, puisque votre livre fait écho à 8 d'entre elles, et les 8 premières qu'il a publiées. Alors, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Alors, beaucoup de gens ont été impressionnés par ce livre. Hein. Ouais. Kaiwa l'a traduit en français. Chez vous, qu'est-ce que ça a provoqué? Et quel rapport y avez-vous vu avec ce que vous appelez, vous, des fictions scientifiques?
Ça s'est fait en plusieurs étapes. C'est un livre que j'ai lu jeune et qui m'a immédiatement fasciné. Et en y revenant, j'ai fait des études partiellement scientifiques, partiellement littéraires. En y revenant dans mes études littéraires, j'ai à chaque fois été fasciné par le vertige métaphysique qui est instillé et par l'inventivité des motifs que Borges donne à expérimenter, en quelque sorte, à son lecteur dans la série de ses fictions. Le tout premier, il faut faire état de la tout première nouvelle, en effet, Tlön Ukpar Orbis Tertius, qui est une histoire de...
Ça, c'est la première du recueil, mais je crois pas que ce soit la première écrite.
Non, c'est Pierre Ménard, je crois.
Pierre Ménard, auteur du Don Quichotte.
Ouais. Mais la composition du recueil fait sens parce que c'est, tout comme dans le mien, c'est une nouvelle qui a une vertu de projection. C'est-à-dire que quand on la lit, ensuite, on a compris à quelle sorte de jeu va nous prendre Borges. Et je trouve que c'est... on est dans une dimension de la littérature d'abord spéculative. Quand on lit ça, il y a un caractère érudit, à la limite de la cuistrerie parfois, mais avec une ironie, avec des doubles sens. Il est très intéressant de relire Borges maintenant qu'on a accès à Wikipédia et qu'on peut vérifier l'ensemble des références qu'il manipule, car elles ont très souvent des sens cachés, labyrinthiques.
Il a prétendu lui-même qu'il n'avait fait que falsifier des textes existants, comme si presque tout ce qu'il avait écrit se trouvait déjà chez Kafka, chez Poe, oui, et chez quelques autres.
Oui, l'une des nouvelles les plus célèbres avait eu chez Kurt Laßwitz une existence, c'est la fameuse histoire de la bibliothèque de Babel, et qui avait été déjà écrite, mais à chaque fois, il a su d'abord donner ce caractère un peu ludique et donner une profondeur émotionnelle. On ne peut pas justement le lire sans voir qu'il y a un ajout kafkaïen, en fait, sur des motifs qui pourraient être froids. De ce fait, ça nous donne aussi une clé de ce qui vous a semblé convoquer les expériences de pensée scientifiques. C'est que les expériences de pensée scientifiques ne sont pas que des jeux à partir d'hypothèses. Elles ont cette capacité à mobiliser des métaphores pour essayer de nous plonger et de nous impliquer. Eh bien, la même chose a été réussie par Borges, qui, d'une part, je disais, le motif de la nouvelle principale, c'est de gommer la frontière entre la réalité et la fiction et de voir une contamination de la réalité par la fiction. Et c'est en revenant à cette nouvelle-là que je me suis dit, voilà. La période que nous vivons avec l'usage, disons, des technologies d'information et de la communication maintenant relayées par l'extrême puissance et scalabilité des usages d'intelligence artificielle, et dans une période où il y a réellement des tentatives, pareil, de subvertir le gradient de réalité dans la perception de la masse des individus, ce qui est appelé guerre cognitive, hein, dans le vocabulaire de la défense. Et je dois dire, un certain nombre de ces nouvelles ont été suscitées parce que je participais à un programme de recherche qui portait sur les guerres cognitives. Donc il y en a quatre d'entre elles qui en fait sont des illustrations de ce que je voyais comme menace pour la science, étant donné que le jeu, c'est que ce que Borges faisait avec, comme vous l'avez rappelé, des hypothèses fantastiques, on ne sait pas comment la fiction arrive à pénétrer et à transformer le réel la plupart du temps dans ses nouvelles. Là, on n'en a plus besoin. La technologie de nos jours nous met sous les yeux des moyens d'amplification de ces fictions qui ne se disent pas pour fiction d'ailleurs, hein, qui, au moins la fiction, elle a l'honnêteté de dire « je suis une fiction ». Non, de ces fausses nouvelles, de ces désinformations, malinformations qui pullulent et biaisent notre relation à la réalité.
Quand on compare, Vincent Bonton, vos fictions à celles de Borges, on voit qu'en effet, dans les vôtres, la part de la technologie est beaucoup plus importante, mais vous avez organisé les titres de vos propres nouvelles en résonance avec celles de Borges. Par exemple, celle de Borges qu'on a citée, Pierre Ménard, auteur du Quichotte, devient chez vous Pierre Bayard, auteur de Pierre Bayard, auteur de... etc. Pierre Bayard, nous l'avons reçu il y a quelques semaines à la Conversation scientifique pour qu'il nous parle de son livre « Je, sommes plusieurs » sur les personnalités multiples. Et ce qui est étonnant quand on lit votre nouvelle, on va pas la dévoiler complètement, mais c'est qu'elle est annonciatrice d'une partie de l'œuvre de Pierre Bayard.
Ah oui, ça c'est une relation très heureuse, parce que...
C'est un coup de bol.
Vraiment, et puis redoublé, parce que en pensant justement qu'est-ce que je pouvais prendre comme motif pour Pierre Ménard, auteur du Quichotte, c'est une histoire où un certain Pierre Ménard entreprend par obsession de réécrire le Don Quichotte de Cervantes.
Et il le fait mieux.
Non, il le fait exactement pareil, mais ça a un autre sens, parce qu'il le fait au présent. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu déridien dans la différence où un texte, deux textes identiques n'ont pas du tout le même sens si on les réfère à deux émetteurs différents. Et je me suis dit que Pierre Bayard, par son habitude de faire justement lui aussi des expériences de pensée, de la lecture, de la proposition de lecture qui donne à son lecteur un jeu, ce serait intéressant de jouer, à inventer, de faire la critique, comme Borges le fait souvent, d'un livre qui n'existe pas, et en l'occurrence, d'inventer un livre de Pierre Bayard qui n'existe pas encore. Et une fois que j'avais fait ça, j'ai envoyé ma nouvelle à Pierre Bayard, qui m'a répondu que, bien évidemment, il faudrait qu'on s'arrange pour les droits d'auteur. Et le plus drôle, c'est que, évidemment, quand je tombe sur « Je, sommes plusieurs », c'est qu'un certain nombre, pas tous, hein, et pas de la même manière que ce que j'avais prévu, mais un certain nombre des thèmes que je lui prêtais, eh bien, il les a vraiment traités. Je crois pas que ça ait eu forcément d'influence, mais en tout cas, il y a résonance, et c'est très plaisant de voir un effet comme ça. Du coup, j'espère que les autres nouvelles que j'ai faites n'auront pas la même résonance dans le réel, parce qu'il y en a beaucoup qui sont quand même... Enfin, il y en a quelques-unes qui sont un peu embêtantes, je dirais.
Alors, on va y venir. Il y en a une de Borges qui s'appelle « Les ruines circulaires ». Chez vous, ça devient « Les ruines occidentales ». « La loterie à Babylone » devient chez vous « La cryptocratie de Babylone ». « La bibliothèque de Babel », qui, je crois, est la nouvelle la plus connue de Borges, devient chez vous « La babélisation du Web of Science ». Examen de l'œuvre d'Herbert Quint devient chez vous les œuvres singulières de Q. Herbert. Le jardin aux sentiers qui bifurquent devient le réfractal, etc.
Oui. Certaines d'entre elles sont très proches donc de méthodologies qui existent et qui sont employées parfois dans des associations militantes, parfois dans des entreprises, parfois par l'armée. On l'a vu avec la Red Team, par exemple, récemment.
Rappelez ce que c'est.
La Red Team, c'est une... maintenant, ça a cessé, ça s'appelle Radar maintenant. Mais c'est un programme de recherche et de prospective de l'armée qui mobilise des auteurs de science-fiction pour envisager des menaces justement avec les moyens de la science-fiction. Et ça... Alors, peut-être qu'ils n'emploient pas exactement la même méthode, méthode que moi. Moi, j'emploie une méthode qui s'appelle le prototypage de science-fiction. En plus de ça, dans un rapport avec des spécialistes japonais, mon ami Hirotaka Ozawa. Mais certaines des nouvelles sont vraiment très très proches de ça, c'est-à-dire d'un usage non littéraire de la fiction. C'est-à-dire, on ne crée pas la fiction pour elle-même. Je me suis efforcé, moi, dans ce livre, en fait, d'avoir les deux fers au feu, en quelque sorte. C'est-à-dire de garantir une qualité littéraire à ce que je faisais, mais c'est plus facile, parce que c'est toujours plus facile de monter sur les épaules d'un géant. Donc, quand on presque pastiche, en tout cas, on s'inspire de Borges, on est sûr de disposer de cette qualité des motifs fictionnels, hein, qui est intéressante. Et de l'autre côté, ce côté non littéraire de la fiction, de prototype, qui est destiné, en fait, d'abord à instituer un jeu avec le lecteur. Beaucoup des nouvelles vont sans doute susciter chez le lecteur le besoin de vérifier les informations, de savoir qu'est-ce qui dit qui est vrai, qu'est-ce qui dit qui est faux dans ce qui est avancé, et de d'essayer de retrouver une assise de la
en fait, on sait plus très bien où on habite, hein.
Ah ben oui, surtout dans la première. Donc il y a quelque chose sur la capacité à, vous savez, il y a un livre qui s'appelle de Korzybski, qui s'appelle la carte et le territoire, mais là c'est la carte et le territoire. C'est-à-dire l'idée qu'on va nous faire vivre dans des modèles de représentation qui se substituent à nos relations avec la réalité. Et donc certaines des nouvelles sont vraiment proches de prototypes de ce type, qui doit donner ensuite des capacités de réflexion collective et éventuellement même de réaction au sens d'organisation, pour essayer de ne pas tomber dans les pièges qui sont décrits.
Comment est-ce qu'on fait, Vincent Montand, pour anticiper ce qui va se passer grâce ou à cause des nouvelles technologies, alors qu'en général, on ne sait pas ce que va faire ce qu'on fait?
Alors, étonnamment, bon, d'abord, la réponse, c'est on travaille, on trouve des informateurs et on se renseigne. Donc, il y a eu, c'est quand même 3 ans de recherche et d'accoutumation à cette problématique des guerres cognitives et de l'IA qui ont...
Est-ce que vous allez dire, par exemple, ce que va faire l'IA?
Le truc, c'est que, quel que soit, là, dans ce cadre-là, dans le cadre de ce qu'on appelle la conception adversive, pour certaines, la moitié des nouvelles sont comme ça, on imagine qu'est-ce qu'on pourrait faire de mal. Et le truc, c'est qu'en réalité, tout ce qu'on imagine existe déjà. Ce qui fait que pour écrire ce livre et ensuite pour qu'il soit publié, il s'est passé 1 an et demi. C'est normal, il faut 1 an pour faire un beau livre. Vous avez vu la couverture de Scott Pennorth, est vraiment d'une grande qualité. Bon, voilà, c'est le travail des belles lettres. C'était pas fait pour faire un coup, pas pour être actif. Mais certaines des choses qui sont décrites sont en train de se produire. C'est-à-dire, du coup, mon livre n'a que 15 jours d'avance, je dirais, par rapport à ce qui se passe.
Faut le lire vite, alors.
Et donc, oui, c'est ça, lisez-le avant Noël, après, ça sera plus vrai.
Très caduque.
Voilà, ça sera déjà dépassé.
Je vais donner un exemple de choses qui se sont produites entre le moment où vous avez rendu votre manuscrit et aujourd'hui.
Il y a une attaque. Dans ce livre, il est dit qu'il y aurait une attaque sur la base de données principale scientifique, qui est celle du Web of Science.
Ah oui, vous établissez un rapport entre la bibliothèque de Babel au sens de Borges, dont on rappelle qu'elle contient tous les ouvrages déjà écrits, ainsi que tous ceux à venir, parmi un nombre immense de livres, sans aucun contenu lisible, puisque chaque livre peut n'être constitué que d'une succession de caractères ne formant rien de précis dans aucune langue.
C'est ça, c'est la bibliothèque de Babel, c'est toutes les combinaisons de signes possibles.
Donc, il y a tout.
C'est ce qu'on... Oui, il y a tout, mais en réalité, il n'y a rien. Il y a autant de contenu d'informations dans cette bibliothèque que s'il y avait une seule page avec les différents caractères et un D pour déterminer aléatoirement la sortie de ces caractères. Il n'y a pas plus de réalité informationnelle que ça dans cette bibliothèque. C'est ça le paradoxe.
Il y a tout, mais il n'y a pas d'information.
Non, parce que l'information est perdue dans le maximum de bruit. Et ces tentatives, ce qu'on appelle techniquement des offuscations ou des obscurcissements, des assombrissements, eh bien, on en voit maintenant dans le champ scientifique.
Alors, c'est une nouvelle, enfin, parmi celles que vous avez écrites, c'est une de celles qui m'a paru en effet la plus en résonance avec le présent, à propos de ce qu'on appelle le Web of Science. Alors, quel parallèle faites-vous entre la bibliothèque de Babel et le Web of Science? Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on en viendrait à dire que le Web of Science distille davantage de bruit que de connaissances.
Non, il peut être saboté par le bruit. C'est une nouvelle que j'ai faite en discutant avec mon ami et collègue Vincent Larivière, qui dirige l'Observatoire des sciences et technologies du Québec, qui est l'organisme qui structure la base de données du Web of Science. Et par ailleurs, c'est un grand savant en scientométrie, bibliométrie, donc le meilleur spécialiste de ces enjeux-là. Et j'ai discuté avec lui, j'ai lu certains de ses papiers, j'ai commencé à élaborer le scénario de sabotage, je lui ai envoyé, et sa réaction me paraît quand même assez probante. C'est-à-dire, il ne m'a pas dit « je ne te parle plus jamais », mais il l'a fait lire à tout l'OST.
L'OST ?
L'Observatoire des sciences et des technologies du Québec. Donc, il l'a donné à toute son équipe en disant « lisez ça ». Et d'une certaine manière, je crois qu'il y avait, d'une part, ça l'amusait, parce qu'il figure dans... Alors, j'en ai fait un personnage de fiction, mon ami. Il y a des gens qui pourraient mal le prendre d'être fictionnalisé comme ça. C'est aussi pour ça que j'ai vérifié avec Pierre Bayard que d'être fictionnalisé ne le dérangeait pas. Mais il y avait aussi ce côté, finalement, le cauchemar que je décrivais, avec, pour dire, je donne juste une idée, on va pas spoiler tout, hein, mais il y a une idée qui est celle des doppelgangers. Et les doppelgangers, ça serait l'idée, donc ça veut dire les doubles en allemand, hein. L'idée que quand vous tapez une requête sur le Web of Science pour trouver un article, donc vous avez l'auteur, le titre, vous n'avez pas un résultat, mais des milliers. Et c'est tous des articles qui ont le même auteur et le même titre, et un texte toujours légèrement différent. Ce qui fait que même si vous aviez quelques citations, si vous n'avez pas l'original en papier dans une bibliothèque, en papier avec des livres, choses qui disparaissent de plus en plus du monde scientifique, faut bien dire, hein, vous ne saurez pas retrouver l'information, parce que même dans ce, vous aurez peut-être vous recroqueviez sur un halo, hein, retrouver quelque chose de vraisemblable, éliminer tous les variantes, parce que si on change un tout petit peu, mais qu'on le fait beaucoup beaucoup, on peut aller d'un extrême à l'autre.
C'est-à-dire qu'on est dans un climat d'incertitude.
Ouais, d'incertitude au sens manque de connaissances, oui, tout à fait. Pas au sens pseudo-quantique, mais en termes de, on se retrouverait à être dans une irrésolution sur le chemin par lequel on est passé, parce que comme ça, on sape les limites on sape la dépendance de chemin de la science.
Dans cette nouvelle, vous parlez du bégaiement de la science.
Ah oui.
Qu'est-ce donc ?
Alors ça, c'est une idée que je trouve amusante. C'est si on part de l'idée que ce résultat que je viens de donner ça résulte du fait qu'il y a énormément de production par ce qu'on appelle les moulins à papier ou usines à papier, c'est-à-dire des intelligences artificielles génératives qui génèrent des faux articles. Alors ça existe, hein, évidemment. J'ai rien. Je m'étais dit ça, et puis ah oui, bien sûr, ça existe déjà. C'est en pleine croissance, voilà. Admettons que ça démultiplie la masse de la production, d'accord ? Alors d'une part, on sera dans quelque chose qui va rendre la science inhumaine au sens où plus personne, déjà actuellement, un spécialiste d'un domaine, d'un sous-domaine, je veux dire, pointu, a du mal à lire, à suivre, hein, on est d'accord ? Oui. On est obligé de s'organiser dans les équipes scientifiques en disant « cette semaine, c'est toi qui fais un compte-rendu et tout ça ». De plus en plus, en fait, les scientifiques mettent en place des IA qui font pour eux ce travail de détection.
Et de synthèse.
Et de synthèse. Les revues scientifiques le font, c'est-à-dire ne trouvent plus assez de référis pour absorber et donc font un premier tri. Tout ça, c'est une sorte de bouclage hors cerveau du fonctionnement de la science. C'est assez effrayant. Et la chose, c'est on peut partir de l'idée que s'il y a une telle production, alors par la théorie des grands nombres, on sait qu'il y aura des chaînes de caractères qui seront périodiquement reproduites. Si cette chaîne de caractères atteint une certaine taille, elle atteint la taille, par exemple, d'un article. Donc on peut parler de bégaiement, parce que dans ce régime suramplifié de production scientifique inhumaine, en quelque sorte, on sait que forcément des articles vont être réécrits. Et c'est d'ailleurs pas absurde, parce que si la chose devient trop grande à cartographier, il faut bien repasser de temps en temps par le même chemin pour arriver. Oui, il faut se répéter. Et donc c'est le bégaiement de la science, c'est une des conséquences du prototype dans la nouvelle.
Et dans cette même nouvelle, vous écrivez « Pendant longtemps, la fausse science n'était pas difficile à identifier.
Oui. »
Sous-entendu, aujourd'hui elle l'est.
On est dans la nouvelle, hein. Donc dans le aujourd'hui de la nouvelle, c'est même devenu quasi impossible, parce que il y a plusieurs mécanismes et boucles de rétroaction qui confortent, on va dire, l'éclatement, la babélisation, comme il est dit, du champ scientifique. De nos jours, non. De nos jours, on peut encore parler. Vous pouvez inviter Vincent Larivière et il vous expliquera comment on arrive à détecter où. Mieux en France, parce que là, vous feriez revenir du Québec, mais Guillaume Cabana, qui est quelqu'un qui est employé par les grands journaux scientifiques pour détecter précisément ces corruptions de la science. Il y a une lutte qui s'est engagée.
mais un rapport de la société américaine qui date du mois d'août 2024, je crois, qui explique que la vitesse à laquelle augmente le nombre d'articles faux est plus importante que la vitesse avec laquelle augmente le nombre de vrais articles.
Oui, c'est pour ça que je vous disais que j'avais 15 jours d'avance.
Vous dites dans cette nouvelle également, Vincent Montand, la science a toujours été accompagnée de déviances pathologiques.
Oui.
Alors, est-ce que ces déviances, d'abord, quelles sont-elles? Est-ce qu'elles évoluent, par exemple, du fait de l'IA?
Ah, elles sont peut-être amplifiées. Surtout, il y a une ligne de partage où il faut faire attention. Il y a toujours eu de la science pathologique, et c'était de la science pathologique à une époque où la science était produite uniquement par des êtres humains. Donc, on peut tout à fait avancer qu'il n'y a pas recoupement nécessairement entre la science amplifiée ou créée partiellement ou totalement par intelligence artificielle et la science pathologique. Maintenant, expliquons ce que c'est que la science pathologique. Il y a un livre très chouette de Robert Park qui était le représentant de la Société des physiciens américains auprès de Washington et qui luttait contre ce qu'il appelle la science vaudou. Et il y en avait trois types. Il y a la parascience, qui sont les gens qui veulent en fait parler des anges, de toute une série de principes irrationnels, mais qui habillent ça d'un discours d'apparence scientifique. Il y a ce qu'il appelle la junk science, la science bidon, qui sont les lobbies qui créent de la science de mauvaise qualité, mais pour créer du bruit et empêcher que le message scientifique se propage. Donc, toute la désinformation climatique, des choses
les
comme ça.
Les marchands de doute.
Et les marchands de doute en font partie. Et puis, il y a une troisième catégorie beaucoup plus attachante, beaucoup plus intéressante finalement sur le mécanisme de l'esprit humain, qui est la science pathologique, qui est faite par des gens qui très souvent au départ sont de bonne foi, ils ont eu une bonne idée, ils ont fait une synthèse scientifique, ils ont abouti à une conclusion qui s'écarte du consensus scientifique. Et ma foi, c'est comme ça que procèdent aussi les inventeurs, les grands découvreurs, Albert Einstein, c'est ça. Le seul problème, c'est qu'ils l'ont fait avec une connaissance lacunaire du domaine dans lequel ils évoluaient, ou en faisant une erreur de raisonnement au départ. Bref, leur synthèse est fausse. Mais comme il y a une part de vanité, de crédulité, parfois d'appât pour la gloire ou le gain qui peuvent se mêler à ça, ils vont s'accrocher à leur hypothèse, jusqu'au point où, au bout d'un moment, ils vont tomber dans la fraude pour entretenir l'illusion que leur synthèse est toujours valide. Et c'est ça qu'on appelle la science pathologique. Et une des idées de cette nouvelle est en effet qu'il y aura beaucoup, beaucoup de mal à réprimer la science pathologique dans ce nouveau régime que j'ai décrit, où finalement les cerveaux sont en position très excentrique par rapport à la production massive de ce qui se prétend être de la connaissance.
Mais Vincent Montand, aujourd'hui avec ChatGPT et l'IA générative, on assiste à la production industriellement dopée d'écrits qui sont constitués de paraphrases ou bien directement produits par des machines.
Oui.
Et donc, quel statut allons-nous accorder à ces textes qui sont entièrement générés artificiellement, à ce qu'on pourrait appeler des simulacres de travail, et que devient alors la notion même d'auteur ?
Il y a une nouvelle qui porte là-dessus, c'est les œuvres singulières.
Oui, c'est pour ça que je vous interroge.
Et je crois que dans une logique, admettons que nous restons dans une logique d'un monde capitaliste, il faudra bien créer de la valeur. Et cette valeur se fait par l'imposition d'un critère de rareté. Et donc je pense qu'il y aura des modèles de langage de luxe, très bien entraînés, peut-être qui d'ailleurs seront isolés du reste, très certainement isolés du reste, et auront des informateurs humains à leur service de très haute qualité, et que leurs produits ne seront pas en accès libre, et au contraire seront monnayés, même peut-être mis sur un marché spéculatif, voilà. Tandis que, disons, ce qui sera accessible au tout venant, ce sera possiblement et probablement pollué et auto-intoxiqué. Quand ce sera ça, c'est juste la dérive de la technologie, mais peut-être aussi aura été manipulé, comme on le voit déjà par l'alignement de certains algorithmes et l'alignement de certaines IA sur les opinions idéologiques de certains de leurs possesseurs. Et donc, on va vers une sorte de crise de la confiance dans l'acte de lire. Crise qui redouble la grande découverte, qui était déjà critique, du fait que maintenant nous lisons des textes qui n'ont pas été écrits. C'est ça, la grande chose qui technologiquement est importante pour notre époque, c'est que nous sommes déjà dans des contenus Internet qui sont majoritairement produits de façon synthétique, et que d'ici 2030, nous serons dans un monde où le stock de produits littéraires synthétiques aura dépassé le stock qui a été produit depuis le début de l'humanité.
Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à la phrase qui termine l'une de vos nouvelles, d'ailleurs celle sur le Web of Science. Vous dites « il n'y a que les hommes libres qui goûtent la drôlerie d'un canular ». Qu'est-ce que ça vient faire là ?
C'est quelque chose que je vous dois. Je vous ai écouté un jour expliquer qu'on devait être libre de faire des canulars.
Bah plus maintenant, parce qu'il y a des images artificielles qui sont tellement nombreuses qu'on n'a plus le droit de faire des canulars, finalement.
En tout cas, il y a un risque, parce que face à la situation que je décris, le risque de voir une organisation autoritaire de la connaissance légitime, orthodoxe, peut intervenir, et donc à la fois le fait de faire réellement de la fiction, réellement des canulars, peut perdre son sel si c'est noyé dans le n'importe quoi permanent qui circule, et peut être pourchassé, réprimé, si jamais on est dans une société qui, pour résister, est devenue autoritaire. Il nous faut inventer, c'est l'un des buts de ce recueil, que de nous guider aussi vers des lignes qui permettent d'inventer une organisation qui ne serait pas enfermée dans ce dilemme entre vérité officielle autoritaire et n'importe quoi délirant synthétique.
On va pas dévoiler vos fictions scientifiques, Vincent Montand, on l'a un peu fait, mais on est resté quand même très prudent, très bref. En quoi est-ce qu'elles se distinguent, vos fictions scientifiques, il y en a 8 donc, de la science-fiction ?
Eh bien, ça dépend du sens dans lequel on prend la science-fiction. Parce que la toute première personne à avoir utilisé ce terme, William Wilson, c'était au 19e siècle, lui donnait un sens très proche de ce que j'essaye de faire avec les fictions scientifiques. C'est-à-dire, il était émerveillé par l'invention du télégraphe et qu'elle rendait possible, cette invention, de réaliser le prodige des fées dans les contes britanniques qui se parlent à distance. Et il y avait comme cette idée de, il y a une résorption du merveilleux dans le réel par la technique, et il faut en prendre il faut mesurer les conséquences sociales de ce phénomène. Et donc ça, je pense que c'est à peu près le sens que je fais. Maintenant, dans la science-fiction, c'est un terme qui a été labellisé et popularisé cette fois-ci par Hugo Gernsback aux États-Unis, c'était un luxembourgeois, et il héritait des traditions du merveilleux scientifique français, des scientific romances anglaises, de toute la tradition européenne, et il a créé un produit très particulier pour le marché américain, qui est un produit qui se vend sous un motif d'anticipation. D'accord. Or, même si j'ai joué un peu avec cette idée que j'ai très peu d'avance pour souligner la vitesse à laquelle évolue l'intelligence artificielle de nos jours, qui est totalement prodigieuse, ce que font mes prototypes, ne prétendent pas être des anticipations. Elles prétendent donner des expériences de pensée dans d'autres mondes, dans des devenirs possibles, mais qui sont pas forcément probables, de manière à ce que quand on revienne dans le monde réel, on soit capable justement de corriger ces anticipations. De dire, ah oui, mais ce que je pense qui va continuer de durer ne va pas forcément durer, ou au contraire, ce qu'on me prétend être un futur inéluctable, en réalité est parfaitement évitable, d'accord ?
Mais ce que vous êtes en train de nous dire, Vincent Montand, c'est que vous allez écrire des rééditions successives de vos fictions pour vous adapter au rythme de l'évolution des technologies.
Je ne sais pas si je vais en être capable. D'abord, j'avais vraiment envie, à un moment donné, de prolonger sur le... J'ai écrit que les 8 premières nouvelles originales du recueil, et il y en a bien d'autres qui sont fascinantes.
Il y en a 14, je crois.
Voilà, dans la suite du recueil, qui ont été adjoints. Mais surtout, ça demande une certaine énergie, une certaine disponibilité qui fait qu'il faut répondre, si on ne veut pas juste faire un prototype pour le prototype et ensuite l'oublier, si on veut en faire quelque chose qui mérite d'être lu, il faut que ça réponde à une pression intérieure, ce qui était mon cas pour cet ouvrage-là, et je ne sais pas quand est-ce que cet appel et cette pression intérieure reviendront.
Merci Vincent Montand d'être venu à la conversation scientifique. C'est rare de recevoir un philosophe qui connaît aussi bien la science et la technologie. Je recommande très vivement la lecture de votre livre qui s'intitule « Fiction scientifique », sous-titre « Et si Borges avait connu l'IA ?» C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp à la réalisation et la mise en onde Swag Boukorsa.